6. Vous voyez, ce que j'ai fait ce matin, j'ai jamais fait de toute ma vie, hein, mais je sais que ça vient du Seigneur. Voilà, donc j'ai vraiment senti que c'était important de vous communiquer ce message important pour que personne ne puisse être privé de cette bénédiction. Dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu écriras sur les poteaux de ta maison, sur les portes, quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Des vignes, et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession de ton pays, du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque demain ton fils te demandera, que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées. Eh bien, tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait toujours et aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Amen. Amen. Deutéronome, ça veut dire quoi? Vous savez, souvent on dit des noms comme ça et on ne sait pas ce que ça veut dire. Deutéronome. Vous savez que les livres de la Bible sont simplement les noms qui sont donnés aux livres de la Bible chez les Juifs, dans la Bible juive. C'est juste les premiers mots. Les premiers mots qui apparaissent, c'est ça les noms. Ils n'ont pas cherché. Voilà. Deutéronome, ça veut dire quoi? Deuxième loi. Ouais. Deux, hein, et nom, c'est la loi. Donc la deuxième loi. La première loi, c'est pas qu'il y a deux lois, mais la première fois qu'il est parlé des lois, c'est dans l'Exode. Hein, c'est dans l'Exode, quand il y a le récit, où Dieu donne les tables de la loi à Moïse. Vous avez vu les 10 commandements, hein, le film? Donc ça, c'est la première fois que les lois sont données. Et là, c'est tout un livre qui s'appelle le Deutéronome. Vous voyez que c'est différent du livre de l'Exode. Et là, les lois sont redites avec plus de détails. Et là, nous avons la prescription de ce qu'on appelle le Shema Israël. Il y en a qui connaissent le Shema Israël, hein? Ceux qui étaient en Israël en particulier. Le chemin Israël, ça s'écrit comme ça, hein, le chemin Israël. Israël. Le chemin Israël, c'est écoute Israël, c'est le verset 4, hein. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Où l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On le dit tous ensemble, hein, le chemin Israël, c'est écoute Israël. On le redit ? Écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. L'Éternel, c'est le nom en français de Yahvé. Hein. Yahvé, ça veut dire quoi? C'est le nom de Dieu. Comment il s'appelle, notre Dieu? En français, parce que Yahvé, vous ne connaissez pas l'hébreu. Il y en a qui connaissent l'hébreu ici? Bon, donc personne. Donc en français, ça veut dire quoi, Yahvé? Ou Jéhovah, parce que si vous mettez les consonnes, Yahvé, ça veut dire quoi? Hello! Ah, je crois que j'ai bien fait de prendre cette prédication parce que ça tombe à pic. Hein. Parce qu'on connaît très peu justement ça. Et ça, si on ne le connaît pas, on n'est pas prêt pour les temps qui viennent. Ça, vous allez m'entendre parler de ça. Yahvé, ça veut dire quoi? Je suis celui qui suis. Alors on le dit tous ensemble, je suis celui qui suis. Ok? Vous le connaissez, vous voyez, mais vous ne l'avez pas présent. Et ça, c'est très important de l'avoir présent à l'esprit. Les Juifs, ils l'ont présent parce que non seulement Yahvé, ils ne le prononcent jamais, parce que pour eux, c'est un nom qui est saint. C'est le nom que Dieu a donné quand il s'est révélé à Moïse, quand Moïse a dit, mais tu me demandes d'aller voir les Israélites en Égypte, mais je veux dire, de la part de qui? De quelle autorité? Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Bien sûr, je sais que c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, à mes pères. Mais quel est le nom que je donne? Et c'est là que Dieu lui révèle le nom. Je suis celui qui suis. Amen. Ça, c'est le nom Yahvé, ça veut dire je suis celui qui suis. Ou qui est, qui suis. Vous voyez? Ce nom est absolument capital. Ça s'appelle aussi le tétragramme. Vous connaissez déjà le tétramorphe. Hein. Là, c'est le tétragramme parce qu'il y a quatre lettres. C'est quatre lettres. Et quand ils transcrivaient la Bible, les Juifs, eh bien, ils sautaient parce qu'ils ne voulaient pas l'écrire. Hein. Pour eux, c'est Dieu. Et Dieu, il est le tout autre. C'est celui, voilà, on peut pas. C'est pas notre copain, quoi. Et donc, il y a ce respect de Dieu de la part des Juifs dans toute la manière dont il... Et le nom de Yahvé, il ne le prononce jamais. Il le remplace par Adonai, le Seigneur, pour éviter justement d'utiliser le nom de Yahvé, celui je suis, celui qui suis. Écoute, Israël. C'est très important, vous voyez, d'être à l'écoute. Pour suivre et servir le Seigneur, il faut d'abord écouter, entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le chemin Israël, c'est écoute Israël, l'Éternel Yahvé et notre Dieu, Yahvé est un. Dans l'écriture hébraïque, hein, moi je ne connais pas l'écriture hébraïque, mais voilà, ça commence comme ça. D'ailleurs, c'est toujours de gauche à droite. Hein. Ça commence comme ça, avec une grande lettre. Et il y a toutes les lettres voilà, ici. Et là, il y a le dernier mot qui est une sorte de Y. Voilà. Et il y a juste deux consonnes. Ça, c'est écrit en grand dans le Shema Israël. Et vous savez pourquoi? Alors là, on le sait par les enseignements rabbiniques, c'est que le mot qui ressort ici, c'est Ed. Voilà. C'est un E et un D. Et Ed, ça veut dire témoin. Aide, ça veut dire témoin. C'est-à-dire que le chemin Israël, c'est que on écoute le Seigneur, hein, écoute Israël, et le peuple est témoin. Ça, c'est très très important. Nous, en tant que chrétiens, on s'appelle témoin de quoi? De qui? Témoin de Christ, témoin de Jésus. Hein, nous sommes témoins. Nous sommes des disciples de Christ, des petits Christ. Hein, ça s'appelle des chrétiens. Hein. Y en a qui veulent être disciples ici? Hein, disciples de Christ? Voilà. Mais vous savez que Christ est Dieu. Hein, donc témoin de Dieu, témoin de Christ, c'est la même chose. Et quand le chemin Israël a été déclaré dans le Deutéronome, ça veut dire que le peuple, que ce soit les prêtres, hein, qui remplaçaient Moïse, puisque Moïse est mort après, les prêtres, ils déclaraient ce chemin Israël, et le peuple répondait, nous sommes témoins. Ouais. Il y a toujours cette réponse. Et nous, en tant qu'épouse, nous devons être témoins des paroles que Dieu nous dit, que le Christ nous dit. Si nous ne sommes pas témoins, ça veut dire que voilà, on est auditeur, on écoute, mais on ne répond pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « oui, Seigneur ». C'est pour ça aussi, dans les messages, souvent, il y a des appels, voilà, parce qu'il y a l'écoute, il y a la réponse. Si on ne répond pas, ça veut dire qu'on peut éternellement écouter. Mais il faut être témoin. Et là, dans le chemin Israël, il y a ces deux notions. Et vous voyez, c'est très, très puissant, leur manière d'écrire la Bible. Nous, on n'a pas tout ça. C'est que ces deux lettres eh bien, montrent que le peuple est témoin. On le verra tout à l'heure, comment ils répondent à cette prière quand il l'énonce. Le fait que dans le chemin Israël, c'est donc écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Voilà. Cette unité, ce un, est absolument fondamentale dans la révélation de Dieu. Dans le monothéisme, comme on appelle ça, le monothéisme judéo-chrétien. Il est d'autant plus fondamental que dans les derniers temps que nous vivons depuis une vingtaine d'années, ces derniers temps qui amènent au retour du Seigneur, eh bien, cette notion d'unité du un, c'est là que Satan va séduire son Église. Et comme nous ne serons pas assez affermis sur le 1, ceux qui ne sont pas assez affermis sur ce chemin Israël, eh bien, on va tomber dans la séduction, comme dans les siècles passés. Et c'est pour ça que je voudrais insister ce matin sur l'importance et pourquoi les Juifs pourront tenir dans les derniers temps et pas les chrétiens. Parce que les Juifs, ça, c'est vraiment la base de leur foi. La base de leur foi, c'est le chemin Israël. Parce que aujourd'hui, l'Église va être tentée par ce qu'on appelle le panthéisme et le monisme, hein, à cause de la physique quantique et de toutes les découvertes scientifiques qui prétendent que tout est un. Voyez. Et donc, la religion mondiale va s'appuyer sur le fait que tout est un, mais que c'est du panthéisme. Et pas du tout du monothéisme. Mais on verra ça plus tard. Le chemin Israël, que nous avons lu ici, s'intègre dans un long développement que Moïse fera aux enfants d'Israël juste avant sa mort. Juste avant sa mort, Moïse fait cette déclaration du chemin Israël. Le Dieu d'Israël est un, Père, Fils et Saint-Esprit. Déjà là, on a, disons, la base de la Trinité. Quand les pères de l'Église ont défini la Trinité, ce mot n'apparaît pas dans la Bible, la Trinité, c'est fondamental, et ça a toujours été, disons, attaqué par l'ennemi, la Trinité, parce que justement, c'est la notion du un qui est attaquée. Dieu est un. Quand on dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ça veut dire qu'on divise Dieu, quelque part, de manière sémantique, on distingue trois personnes, mais en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, Vous croyez tous à la Trinité, hein? Parce que ça, c'est la base. Vous voyez? Parce que le christianisme, effectivement, a introduit la notion du Fils et du Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même a dit « Je suis venu révéler le... » Voilà. Mais à l'époque où le décalogue a été écrit par Moïse, il n'y avait pas encore cette précision du Fils et du Saint-Esprit. Elle était contenue dans le « un ». Dieu est un. Et ça, c'est la base de la Trinité. C'est-à-dire que si on distingue Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on a trois dieux. Vous voyez ? On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, on a un seul Dieu. Et c'est le mystère, la Trinité. Donc c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on a des éléments supplémentaires à intégrer dans notre foi, dans notre doctrine. Mais si nous ne sommes pas appuyés sur le Shema Israël, Dieu est un, eh bien, nous pouvons être déstabilisés parce que très facilement, on peut utiliser les manifestations du Saint-Esprit et les isoler. Voyez, c'est souvent dans le monde charismatique, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui va nous amener à une séduction qui est assez importante. La section du Deutéronome, donc juste des versets qui précèdent 5 à 9, fait directement suite au Shema Israël, constitue le premier commentaire. Il expose les modalités de cette unité. C'est l'amour de Dieu, de méditer cette doctrine, ce Shema Israël, de le méditer nuit et jour, de le méditer sans arrêt, de le méditer dans tous les lieux où nous allons, vous voyez, quand vous êtes en voyage, rappelez-le, de le transmettre aux fils, à nos filles, la transmission, d'en faire un signe au-dessus des linteaux, des poteaux, au-dessus des yeux, sur les bras, partout. Il fallait que ce Shema Israël, il apparaisse partout chez les Juifs, partout, parce que si jamais il l'oubliait un instant, eh bien, il pouvait tomber justement dans toutes les séductions dans lesquelles il se trouvait. Et les Juifs étaient entourés de polythéisme, hein, que ce soit à Canaan, et que ce soit après quand ils ont été envoyés dans le monde entier. Pourquoi les Juifs sont aussi haïs? Comment expliquez-vous pourquoi il y a de l'antisémitisme aussi profond, aussi viscéral, aussi brutal, aussi intransigeant? Vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez des réponses? C'est à cause du Shema Israël. C'est à cause du Shema Israël. Parce que même les chrétiens, voyez-vous, les chrétiens, nous sommes issus, la plupart d'entre nous, hein, il y en a qui sont issus des Juifs. Il n'y a pas de Juifs messianiques ici. Voilà. À part les Juifs messianiques, nous sommes tous issus de racines païennes. Même si nous sommes, moi je suis d'une famille catholique, mais si je remonte dans le passé, n'étant pas juif, forcément à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est converti. Vous voyez, si on remontait aux Gaulois, il y en a qui sont des Gaulois ici, bah, autant des Gaulois, le christianisme n'existait pas dans les premiers siècles, ok? Voilà. Bon, si vous êtes d'ailleurs, c'est pareil. À un moment donné, le christianisme est né. Avant, c'était païen. Donc, nous sommes tous issus du paganisme. Est-ce que je vous choque en disant ça? C'est une vérité. Bon. Donc, nous avons une tendance syncrétique. Syncrétique, ça veut dire assembler des vérités différentes pour en faire une autre vérité. Nous avons tous tendance à faire du syncrétisme. Et c'est justement des choses, entre autres, de cette église, Michel et moi, on s'insurge contre du syncrétisme, c'est-à-dire mélanger des choses païennes avec des choses du royaume de Dieu. Et un des combats que nous menons pour vous aider à vous libérer, hein, plus on veut être libre en Christ, plus il faut se libérer des pratiques qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas du royaume. Ok, je vous apprends rien, vous le savez. Mais il faut le rappeler dans ce contexte-là. Donc nous avons tous ceux qui sont ici, entre autres, cette difficulté de nous séparer des choses païennes qui sont mélangés à notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair? Philippe? Voilà. Alors que les Juifs, non. Les Juifs, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils ont le chemin Israël. Quand ils ont reçu ça, tout petit, quand on va voir tout à l'heure que les parents, il fallait qu'ils répètent ce chemin Israël le matin. Le soir, ça, c'était une imposition. On ne pouvait pas y passer. Le matin, le soir, tous les enfants ont droit au chemin Israël. C'est la base, quoi. Sinon, ils ne peuvent pas être juifs. Mais... ensuite, après, quand ils vont en voyage, quand ils vont partout, enfin, tout ce qu'on a lu, là, j'ai pris le soin avec vous de lire tous ces versets-là, c'est ce qu'ils mettent en pratique. Donc, eux, quand ils vont dans le monde païen, puisqu'ils sont juifs, okay, ils ont Israël. Le Dieu, voilà, le Dieu d'Israël, le Dieu donc Yahvé est leur Dieu, il est un. Donc quand ils vont dans les nations comme ils l'ont été, eh bien ça c'est tellement profond que ils rejettent toutes les autres apports qui veulent rentrer dans la religion. Et ça, les gens ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le supporter. Les païens ne peuvent pas le supporter. Et de dire, c'est de l'intransigeance, quoi. C'est de l'intransigeance. C'est pas supportable, ils s'intègrent pas. Et c'est le problème de l'antisémitisme, c'est qu'ils s'intégraient jamais dans aucune civilisation. Ils étaient toujours à part. Voyez, et donc on les a traités à part, on les a persécutés, parce que, vous voyez, déjà les tout petits enfants dans l'école maternelle, tous ceux qui sont un peu à part, on les met de côté. Il faut qu'ils s'habillent pareil, tout ça, sinon ils sont rejetés. Enfin, vous connaissez ça, vous qui avez des enfants, quoi. C'est quelque chose de naturel. Et bien là, c'est aussi naturel dans le domaine de la foi. Et donc, il y a ce rejet de celui qui ne veut pas accepter que, voilà, il faut accepter, voilà, tous les autres dieux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que sur la planète, on peut vivre bien. On peut vivre en paix, on peut vivre dans l'harmonie, dans l'amour et tout ça. Vous voyez, c'est la grande tolérance qui est proposée. Étant donné que ceux qui ne veulent pas accepter Dieu, bah, il faut aussi les accepter sur cette planète. Donc, en fait, on va faire des compromis. Les Juifs ne font pas de compromis. Et c'est pour ça qu'ils sont rejetés. À cause du chemin Israël. À cause de la détermination qu'ils ont reçue tout petit et constamment dans toute leur vie familiale, religieuse, sur le chemin Israël. Il fallait qu'ils écrivent partout, il fallait qu'ils le rappellent partout, il fallait qu'ils le disent le matin et le soir. La section du Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 21, reprend le message en le paraphrasant, donc c'est repris, hein, ce qu'on a lu, c'est repris. Dans Josué, chapitre 1er, verset 8 aussi, il est rappelé ce chemin Israël. Et les prophètes d'Israël, qui élaborent sur ce verset, prophétisent un temps où le Dieu d'Israël sera aussi celui des nations. Comprenons donc le chemin Israël comme une affirmation du monothéisme. Donc il y avait déjà dans ce chemin l'annonce de la venue de Jésus, qui est le Fils, mais qui est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Alors si nous regardons la littérature rabbinique, l'acceptation de cette royauté du ciel, du joug de la royauté, qui est véhiculée par ce chemin Israël, était considérée depuis l'époque ancestrale comme une prescription et non pas simplement une affirmation. Voyez-vous, le chemin, c'est pas juste on affirme, c'est une prescription. C'est-à-dire que celui qui n'accepte pas cette prescription n'est pas juif. C'est une prescription. Et il vaut mieux mourir que de la transgresser. C'est-à-dire, c'est tellement fort que le chemin Israël, pour un juif, il ne peut pas le transgresser. S'il le transgresse, il vaut mieux qu'il meure, il vaut mieux qu'il soit martyr. Vous voyez, c'est pour montrer la force de cette affirmation qui est ancrée chez le juif et qui n'est pas chez nous. qui n'est pas chez nous. Bien qu'on verra, Jésus le rappelle, le chemin Israël. Mais ce n'est pas du tout, et moi-même j'ai du mal à vous le transmettre parce que je ne suis pas juif. Donc j'essaie de me mettre dans la peau d'un juif qui reçoit ça, et quand j'ai lu pour me préparer à ce message, je dis waouh, c'est fort quoi. C'est fort quoi. On est dans un autre monde quoi. On est dans une autre dimension de la foi. Ce n'est pas juste une foi cérébrale, c'est une foi qui intègre l'ensemble de qui vous êtes. Et vous devez accepter de mourir si jamais on vous demande de renier le chemin Israël. C'est ça que ça veut dire. Ils enseignent, donc les Juifs, qu'effectivement, il n'est pas question de sacrifier aux idoles. Parce que tout ce qui va... Qui va attaquer cette unité, donc les idoles, par définition, eh bien, c'est à rejeter. Et c'est un sacrifice d'idoles. On verra plus tard dans Paul, quand il parle de la Sainte Cène, il parle de ça. Quand il parle de sacrifier à des idoles, il rappelle le chemin Israël. Voyez-vous, c'est vraiment un fondement. On le verra plus tard. Il y a plusieurs traditions orales. Ils attestent l'application de cette prescription dès l'époque du Temple, le temple de Salomon, et les prêtres dans le temple, ils proclament deux fois par jour le chemin Israël, donc le verset de Deutéronome 6,4. Et l'assemblée, après, répond, alors, ce que l'assemblée répond n'est pas dans la Bible, mais c'est les rabbins qui l'ont rajouté, ils répondent, béni soit le nom dont la gloire du royaume est à jamais. Voyez-vous, donc, quand le prêtre dans le temple déclare ce chemin Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Toute l'assemblée répond, béni soit le nom dont la gloire du royaume est à jamais. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. Voyez-vous, dans la liturgie rabbinique, liturgie juive, c'est fondamental. À la maison, c'est fondamental. En voyage, c'est fondamental. Et dans leur liturgie, c'est fondamental. Et il y a cette notion d'écouter et de répondre. Et l'ensemble de la congrégation répond cela en proclamant que seul Dieu, qui est un, y règne sur l'ensemble du royaume et l'ensemble de l'univers. On peut donc tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa vie et de tout son surcroît. Ça vous rappelle quelque chose? Jésus le rappelle. Quand il est confronté avec les pharisiens, il a parlé justement, c'est dans Marc 12, de ce chemin Israël. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il faut enseigner cette doctrine aux enfants. Je parle des juifs, mais les chrétiens feraient bien de le faire aussi. Il faut enseigner cette doctrine. La doctrine, c'est une vérité. Cette vérité aux enfants. Que Dieu est un. Et on ne peut pas mélanger des idoles. La troisième chose qui convient de dire, c'est qu'il faut en parler en toutes circonstances. Toutes circonstances. Chez soi, en route, au lever ou au coucher. Et enfin, d'en faire un signe sur le bras et un diadème entre les yeux et les écrire sur le linteau des portes. Vous voyez, c'est ça que, ça comprend le peuple juif. Les juifs considèrent que l'affirmation de ce monothéisme, de Dieu est un, eh bien exclut tout le polythéisme, le dualisme, le panthéisme, etc., etc. Et donc ils sont protégés, un peu comme un virus qui les empêche de toucher à tout ce qui va les séparer de cette réalité. La deuxième phrase, donc, où le peuple répond, béni soit le Seigneur, le nom en l'honneur de son règne à jamais, n'est pas issue directement de la Bible, mais est dite et a été créée pour le grand pardon, le jour du grand pardon. Vous connaissez Yom Kippour du peuple juif. Ce chemin Israël est considéré comme la profession de foi, de base, des plus importantes prières du judaïsme à réciter en se levant et en se couchant, sur son lit, mais aussi sur son lit de mort, sur le chemin, dans son foyer, il l'enseignait aux enfants. Il enjoint à aimer Dieu, le Dieu un, de tout son cœur, de tout son esprit et de tout son surcroît. Alors d'après le contexte de ce verset, si on prend le verset dans tout son contexte, il s'agit donc du peuple d'Israël auquel Moïse est en train de s'adresser. Moïse s'adresse à eux. Et dans Exode, chapitre 24, verset 7, le peuple s'est exclamé « Nous ferons et nous écouterons tout ce que tu dis. » Voyez-vous, ça c'est une alliance. Quand pour la première fois Moïse descend de la montagne et prononce ce chemin Israël, ils disent « Nous obéirons et nous écouterons. » Voyez-vous, l'alliance, c'est les rompus. Donc ils sont dans une alliance parce que le peuple a accepté cette proclamation. Israël, dans cette prière, fait également référence à Jacob, troisième patriarche, qui à la suite de son combat avec cet ange a été nommé Israël. De Jacob, il est devenu Israël, le vainqueur de Dieu. Ce verset a été récité par les 12 enfants de Jacob pour le rassurer sur son lit de mort, car leur père craignait qu'une fois qu'il soit mort, ils oublient ses enseignements. Et ils vénèrent les idoles de l'Égypte, puisqu'il est mort en Égypte. Il avait vraiment la peur que, étant en Égypte, ses enfants allaient adorer d'autres dieux. Et Jacob a eu la crainte avant de mourir. Et il devait leur annoncer l'arrivée du Messie. Et à un moment donné, il y a eu un trou de mémoire, Jacob, et il crut que ses enfants n'étaient pas méritants aux yeux de Dieu. Et une fois cette phrase répétée par les enfants du patriarche, le cœur de ce dernier a été en paix. Quand ses enfants, devant son lit de mort, ils ont dit « Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux ». Voyez-vous, le patriarche, Jacob, a eu peur que ses enfants ne continuent pas dans ce chemin Israël. C'était sa crainte. C'est pour montrer à quel point le juif bien sûr croyant et la croyante juive, est soucieux que ses enfants soient basés sur cette vérité, cette doctrine. Cet enseignement, il est temps de l'écouter et d'accepter sur soi le joug de la royauté des cieux. Les Israélites ont été jusque-là monothéistes par tradition. Il est temps qu'ils comprennent, bien sûr, l'une des notions les plus ardues de ce judaïsme qui concerne ça, y compris Jésus. Et c'est pour ça que les juifs messianiques, on les a vus à Munich, c'est des gens plus que convaincus, parce que c'est au fond de leur trip, cette réalité. Cet enseignement est si difficile intégrer que Manoïde commence dans la Torah par dire « sache qu'il existe un être premier, sache et non crois ». C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le mot « croire », voyez, le mot « croire », qui est une notion de foi, de confiance. Dans l'enseignement rabbinique, il dit « sache ». Vous savez, c'est des petits détails, mais quand vous les regardez de près, vous dites « waouh, c'est toute une autre dimension ». C'est-à-dire que la foi, vous pouvez douter de la foi. Sache, ça veut dire que, voilà, si tu ne sais pas, c'est que tu es dans les ténèbres. Sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu est un. On peut aussi interpréter cette proclamation comme proférée par les 12 fils du patriarche Israël à leur père Jacob, qui reçut ce nom d'Israël pour avoir combattu cet ange. Et Jacob, donc juste avant de mourir, était sur le point de révéler la fin des jours à ses enfants, lorsque la présence de Dieu, la Shekinah, se détourna subitement de lui. Et donc Jacob a demandé à ses enfants vraiment de leur rassurer par rapport au fait qu'ils vont rester fidèles à ce chemin Israël. Je vous disais aussi que le tétragramme, qui est le nom de Dieu, que Dieu lui-même révèle à Moïse, « Je suis celui qui suis, Yahvé », et substitué par le mot Seigneur, Adonai, et même Adonai Hakem ou Hachem, je ne sais plus, pour justement éviter de prononcer ce nom qui pour eux était absolument sacré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le premier mot, suivant la proclamation du schéma dans la Torah, demande aux enfants d'Israël d'aimer Dieu à tout moment, en tout lieu, de l'enseigner aux enfants. Et l'obligation d'enseigner la Torah, donc ses paroles, le passage contient les références aux 10 commandements, bien sûr, énumérés par le Talmud, mais elle contient aussi les allusions à d'autres vertus, hein, qui sont les vertus qui sont significatives à la maison juive, hein, d'aimer le prochain aussi, même s'il n'avait pas encore la notion des nations, mais il devait effectivement être ouvert à recevoir les étrangers et à s'en occuper. La prescription de proclamer le schéma deux fois par jour est immédiatement tirée de la première section de Deutéronome 6, à ton coucher et à ton lever. Le matin, on doit dire deux bénédictions. Alors hier, chez Sonit et Olivier, on a fait Thanksgiving en privé et on a terminé par dire des bénédictions, au moins une ou deux bénédictions. Mais on fait ça une fois par an, enfin dans Thanksgiving. Mais là, c'est tous les jours, tous les matins. Tous les soirs, les enfants devaient réciter deux bénédictions, dire deux bénédictions, avant le chemin Israël, et le soir aussi. Vous voyez un peu la différence d'éducation ? Vous voyez un peu la différence, la manière dont le cerveau, hein, dont la pensée est imprégnée de cette écoute d'Israël, « Seigneur ton Dieu est un ». Eh bien, il fallait qu'ils récitent deux bénédictions, avant et après. Et le soir, on devait dire deux bénédictions avant et deux après, une longue et une courte. Et sa récitation quotidienne, selon Flavius Joseph, hein, qui parlait de ça déjà dans son document Antiquité, a de tout temps été considérée comme un commandement divin. C'est-à-dire que c'était un commandement. En dehors des commandements, des 10 commandements, il y avait ça qui était considéré comme un commandement. Si on le transgressait, eh bien, on n'était pas juif, on n'était pas israélite. La première section de ce chemin Israël est également récitée avant de se coucher. C'est une coutume instituée pour bien s'acquitter de la récitation à ton coucher, car le moment où le chemin est proclamé dans la synagogue pour l'office du soir, c'est trop précoce, donc il fallait le réciter le soir. Si vous étiez dans une synagogue, bien sûr, le prêtre... La synagogue récitait le chemin Israël, mais il fallait le refaire chez soi, parce que c'était trop tôt par rapport à votre coucher. Vous voyez, cette volonté que ce commandement soit bien intégré dans la foi du croyant juif. Dans le livre des psaumes, chapitre 4, verset 4, il est dit aussi « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous ». Donc il s'appuie aussi sur ce passage pour dire, voilà, le dernier mot que vous prononcez ça, comme ça, dans votre coucher, eh bien, votre pensée est gardée par cette... que vous ne puissiez pas aller vers des idoles. Eh, tellement c'était important. Le Shema Israël était aussi un cri de guerre du prêtre qui lance Israël contre l'ennemi. On le voit, si vous voulez regarder chez vous, dans Deutéronome 20, verset 3. Quand ils ont attaqué l'ennemi, eh bien, c'était le cri de guerre. Hein, c'est-à-dire avant que les généraux donnent l'ordre de partir, eh bien, le prêtre y prononçait le Shema Israël. Voyez-vous, le combat spirituel, hein, qui était important vis-à-vis des idoles qui étaient en face, hein, qui les combattaient. Et c'est pour ça que vous comprenez aussi quand Élie disait « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit toute la cavalerie, tous les chevaux qui sont pour nous ». Et c'est pour cela aussi, quand vous êtes dans cette dimension de foi, vous n'avez pas peur de l'ennemi. Parce que vous savez, ce n'est pas une foi subjective, c'est une foi objective. Vous savez que Dieu est là et qu'il vous garde. Il est aussi le dernier mot de tous ceux qui meurent en croyant. Il est devenu le dernier mot des martyrs pour leur foi. Quand il y avait l'Inquisition espagnole, le plus connu, c'est le Rabbi Akiva, qui a été torturé avec des tenailles de fer et brûlé, tandis qu'une éponge était pressée sur sa tête et son cœur afin de rallonger le supplice. Il est mort en récitant le schéma, le Shema, et il expire en prononçant le dernier mot, Ed. Et il est mort. Voyez-vous, même les martyrs ont intégré le Shema Israël dans leur foi, pour rester toujours, pour éviter d'être en contact avec des idoles et d'adorer le seul Dieu. Lévi Primo, c'est un juif qui est survivant du camp de concentration d'Auschwitz. Dans sa préface, qui s'appelle Si c'est un homme, il retrace son expérience dans ces camps. Et voilà ce qu'il écrit. N'oubliez pas que cela fut, c'est la mémoire de la Shoah. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, et que votre maison, ou que votre maison s'écroule. Voyez-vous, dans leur foi qui est tellement intégrée de ce chemin Israël, il l'applique aussi à ce qui s'est passé à Auschwitz pendant la Shoah. Le chemin est aussi connu dans la tradition chrétienne. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. C'est pour dire que ça ne concerne pas qu'Israël. Sauf que nous ne le connaissons pas vraiment, parce qu'il n'est pas central dans notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, 6. Je lis le verset 5 pour le replacer dans le contexte. Quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Et donc le verset 5 dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voyez-vous, l'unité, la Trinité, les pères de l'Église qui ont, dans les conciles, établi la notion de Trinité, c'est aussi sur cette doctrine qui a été enseignée dans le Nouveau Testament, bien sûr, où il est dit que de Dieu, de qui nous sommes et par qui, donc par Jésus-Christ, eh bien, nous sommes rétablis. Et là, on voit déjà tout le plan du salut et tout le plan de la rédemption. C'est extraordinaire. Si vous méditez ce passage, vous voyez la profondeur du plan de rédemption qui est dans ce verset 6. Je n'ai pas le temps d'en faire l'exégèse ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 29, dans l'évangile de... Non, on va prendre Marc, pardon. Marc 12, chapitre 12, verset 29. Jésus répondit, donc verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, et voici le second. Voyez-vous, Jésus rappelle le Shema Israël, le premier commandement. Donc, vous voyez, pas que les Juifs. Les Juifs, prophétiquement, ils ont annoncé ce que Jésus a établi comme une règle de base. Le premier commandement, c'est le Shema Israël. Et combien, enfin, moi, je parle pour moi, combien je suis loin, 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 loin de réaliser cela dans ma foi. Et ma foi, c'est Jésus, c'est très bien. Mais quand on réalise la profondeur de ce Shema Israël, ce qu'il est pour votre vie, qui vous garde dans la séduction qui va de plus en plus grande et qui nous entraîne vers des idoles, eh bien, il nous garde de tomber dans la séduction. Vous avez aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 20, vous l'avez dans Matthieu, chapitre 22, verset 33. Et on va lire dans l'évangile de Jean, hein, donc tous les évangiles en parlent, l'évangile de Jean, chapitre 10, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi, tu es le Christ, dis-nous-le ouvertement. Et Jésus répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne le croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes. On le redit ? Moi ? Le Shema Israël. Voilà. Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, nous sommes un. Jésus le rappelle à ceux qui le mettent en question et disent : Seigneur, dis-nous ouvertement qui tu es. Et là, il rappelle ce fondement du Shema Israël. Les œuvres que je fais ne sont pas de moi, elles viennent du Père. Et alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont pris des pierres pour le lapider. Voyez-vous, il faut une révélation, bien sûr. Je vous ai mis en relief cette manière de pouvoir tenir dans un monde d'idoles, polythéistes, panthéistes et tout ça autour, ce qui était le cas d'Israël, et on sait combien de fois il est tombé dans le panneau. Il faut une révélation supplémentaire. Et les Juifs ne l'avaient pas. Ils avaient le fondement de la foi, mais la révélation supplémentaire, c'est de reconnaître Jésus qui est venu. C'est l'incarnation. Dieu s'est incarné comme un homme pour porter nos péchés et il est remonté à la droite du Père, mais parce que Dieu est un. Et on ne peut pas le diviser. On ne peut pas, voir en Dieu des choses différentes, comme parfois on le fait en séparant Jésus du Père, du Saint-Esprit. Non, il est un. Et il faut revenir à ce fondement que le Seigneur est un. Et nous voulons adorer celui qui veut nous garder de la séduction qui vient, qui est rempli de justement de cette volonté de nous amener dans des pensées, dans des croyances différentes, et je vous en parlerai la prochaine fois plus longuement. Mais j'aurais prié pour que le Seigneur nous donne la capacité, effectivement, d'ouvrir les yeux sur ce fondement du premier commandement, de prendre au sérieux la recherche aussi de nos enfants qui ont besoin d'avoir cette affirmation dans leur vie pour qu'ils puissent être gardés et que l'ennemi ne puisse pas miner ce fondement, ce qu'il est en train de faire dans beaucoup de domaines, que le Seigneur puisse nous garder. Seigneur, nous te remercions pour cette révélation que tu as donnée à Moïse, qui l'a enseignée au peuple d'Israël. Et Seigneur, pardon pour nous qui l'avons pas mis en pratique de manière aussi forte dans nos vies, dans la vie de nos enfants, et qui souffrent maintenant, Seigneur, de toutes ces influences pour lesquelles ils sont en doute, en recherche, ou qui mettent les choses en question, Seigneur. Mais tu vois combien, si le martyr était là, est-ce que nous serions prêts à rester fermes sur ce fondement où, Seigneur, toi, tu nous dis que tu ne partages pas ta gloire avec un autre. Seigneur, tu es un Dieu jaloux et tu veux que nous t'appartenions toi seul, parce que tu sais que lorsque nous nous adonnons à des idoles, eh bien, Seigneur, nous allons souffrir de quelque manière que ce soit. Alors, Seigneur, merci de nous garder et de nous aider, Seigneur, à ce que cette réalité de ton unité, de ton unicité, Seigneur, puisse être au fond de nos cœurs. Et que, Seigneur, nous puissions vraiment demeurer fermes dans ta parole. Seigneur, donne-nous d'être fermes sur tous les enseignements que tu nous donnes. Et, Seigneur, donne-nous la grâce de marcher en fidélité, Seigneur, à ta parole. Que nous puissions dire comme le peuple d'Israël : oui, nous avons entendu et nous voulons te suivre. Seigneur, merci pour cette obéissance que tu mets dans nos cœurs. qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen.